vous êtes bien sur les ondes d'Univers 99.9 et le 3w.radio-univers.com. Émission spéciale sur les ondes d'Univers, émission Station Sérail. C'est mardi, mercredi et jeudi à 19h, Station Sérail, une émission sur les ondes donc de Radio Univers avec et par Elodie Quenouillère-Blair et Camille Lopez-Alvarez, une émission dont vous allez pouvoir écouter la première édition durant cette heure qui se déroule à Quévriac. Mais avant cela, nous recevons donc les deux autrices de ce projet radiophonique, Station Sérail. Elodie, Camille, bonjour à vous.
Bonjour.
Elodie et Camille. Elodie Quenouillère-Blair, vous êtes scénographe, plasticienne. Camille Lopez-Alvarez, vous êtes comédienne, metteuse en scène. Et vous venez donc pour nous présenter ce projet, Station Sérail, projet radiophonique en Bretagne romantique, qui va avoir lieu durant tout ce printemps. C'est bien ça, on va
c'est
en parler. Et qui va vous mener dans différentes communes de la Bretagne romantique, à savoir Québriac, La Beaussène, Saint-Léger, Dingé et Meillac. Et donc, on va pouvoir profiter de toutes ces rencontres radiophoniques, de toutes ces interviews donc sur les ondes d'Univers durant ce printemps-là à 19h. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler justement, alors on va écouter l'épisode, on commence aujourd'hui durant cette heure avec une édition donc à Québriac. Vous êtes allé à Québriac, vous avez recueilli des paroles et tout ça, mais vous allez nous présenter justement ce Station Sérail. Mais avant tout, est-ce que vous pourriez nous parler de la compagnie Covalente et de ce projet tout simplement,
oui,
radiophonique?
Oui, alors la compagnie Liaison Covalente, c'est vraiment la compagnie porteuse du projet, mais on se présente vraiment sous le nom de Station Sérail. La genèse de tout ça, c'est que Camille et moi, on s'est rencontrés il y a 10 ans dans un workshop, c'était sur la dramaturgie des odeurs. Et puis pendant 10 ans, voilà, chacune a fait sa route, on s'est un peu perdu de vue. Et il y a un an, dans Dingé, on s'est rendu compte qu'on était voisines. Donc on s'est dit, on a commencé à discuter aussi de notre nouvelle arrivée là sur le territoire de la Bretagne romantique aussi. On a commencé à discuter du village, de ce qu'on avait pu en apprendre. Et on s'est dit, mais en fait, ça nous intéresse vraiment d'aller recueillir la parole, d'aller découvrir l'histoire du coin dans lequel on habite.
Camille.
Oui, tout à fait. Non, c'est très très bien résumé. On avait toutes les deux ce désir là de renouer un peu. On a choisi là d'habiter ce village et de s'enraciner à un endroit après quelques années d'errance. On a voyagé un peu toutes les deux dans différentes villes de France. Et là, c'était l'envie de s'enraciner et du coup d'arpenter un peu ce pays là, ce territoire, d'aller à la rencontre de ses habitants, de ses espaces, de son histoire, de son patrimoine. Tout ça, c'est lié. Et pour nous, c'était hyper important vraiment de s'enraciner. Je pense que l'image de enfin, c'est vraiment ça, quoi, de l'arbre qui prend racine.
Donc, ça fait partie aussi, c'est une démarche donc radiophonique. Station Sérail. Pourquoi Station Sérail?
Alors,
pourquoi ce titre?
Ouais. Ben, station, parce que la station, on pense à la station de la gare, la station, la position physique aussi. Et puis, station, c'est l'endroit de sur un chemin de fer, l'endroit où on va s'arrêter. Et puis, Sérail, c'est aussi le lieu des femmes. Mmh. Voilà. Et puis, on trouvait que la sonorité...
Et puis, ça sonne, Station
Sérail. La sonorité était pas mal.
D'accord, très bien. Donc, ça accompagne, finalement, le fait que vous vous installiez aussi dans ce pays qu'on appelle la Bretagne romantique. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre des gens. Ça part d'une rencontre entre vous deux. Et l'idée, c'est aussi d'aller à la rencontre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, justement, l'intention de ce projet? Qu'est-ce qui vous intéresse justement à travers ces rencontres radiophoniques?
Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le lien que les habitants entretiennent avec leur territoire. C'est ce qui s'y passe, ce qui s'y tisse entre les habitants et leur espace de vie, leur maison, leur espace de vie plus grand, leur hameau ou leur village, leur pays ou leur commune. Enfin voilà, c'est d'essayer un peu de rentrer comme ça dans les histoires des gens. Et
Puis on a aussi un travail d'archive, c'est-à-dire qu'on va récolter la parole, mais on s'engage aussi à l'archiver. Voilà, en fait, nous, on se disait que c'était aussi important de permettre aux histoires de perdurer, de se transmettre. Et puis voilà, les histoires partent avec les gens. On se dit, tiens, c'est bien si à un instant T, on retient tout ça.
Ça s'intègre aussi dans un travail plus large, artistique.
Oui, bien sûr. C'est qu'en fait, on est parti vraiment là sur un travail de collectage qui va être aussi le terreau d'une écriture plutôt théâtrale. En tout cas, une écriture théâtrale. Ouais.
Non, complètement. On n'a pas encore les tenants, les aboutissants de cette aventure-là. On ne peut pas vous dire ce que ce sera. Mais en tout cas, on sait que c'est notre terreau et que toute cette matière, on la récolte en se disant, voilà, c'est de ça. Il y a quelque chose qui nous touche à cet endroit-là, du lien entre les gens. Il y a quelque chose qui nous touche dans le fait de prendre le temps d'aller aussi parler aux gens, de prendre le temps d'aller à la rencontre des gens, de faire des choses avec les gens. Enfin, aujourd'hui, on a marché avec des femmes qui se retrouvent pour marcher le mardi après-midi. On a été au club avec des anciens. On a été chez des gens qui nous ont montré leur jardin. Enfin, il y a quelque chose aussi du partage qui est pour nous vraiment un terreau riche et sur lequel on a envie de bâtir quelque chose ensuite artistiquement et de prendre racine à l'intérieur de ça.
Et puis c'est une forme d'aventure aussi. Alors on part à l'aventure dans le coin. Moi, en ce moment, j'aime bien la poésie du coin. Mais je trouve que c'est très beau de se dire qu'on part à l'aventure dans le coin. On va fabriquer des choses avec les gens du coin, avec les histoires du coin. Et là, on se laisse vraiment aussi l'opportunité, ce qui est assez rare dans le spectacle vivant parce qu'on a des choses à tenir, mais là, on se laisse vraiment l'opportunité d'aller chercher, d'aller explorer, parce que c'est un projet radiophonique, mais c'est avant tout un projet artistique où du coup, on essaye de comprendre comment cette matière de souvenirs aussi, et puis cette matière de sensible, comment on la travaille et comment on en extrait des choses qui vont nous permettre d'entrer vraiment dans une écriture et un geste théâtral.
Et je crois que ça nous fait aussi du bien que ce soit radiophonique justement, parce que dans la création, l'artistique, on quitte complètement l'image et on est vraiment dans la sensation de ce qu'on vit avec les gens et ce qu'on garde, c'est des matières sonores. Et ça pour nous, c'était vraiment important de se dire, on se détache de ça et on reste avec l'image sonore, en fait, fait des photographies sonores presque des espaces. Et c'est beau de se dire effectivement quel est le son, le bruit de Québriac, quel est le bruit de la rue à Dinger, quel est le bruit. C'est vraiment comment à un moment donné on dessine et on crée des peintures sonores de ces endroits qu'on arpente comme des voyageuses, comme des aventurières de nos propres territoires.
Techniquement parlant, vous partez avec des enregistreurs numériques. Est-ce que vous pourriez nous parler aussi du travail là, en ce moment, que vous menez d'enregistrement, qu'on va pouvoir de ce qu'on va pouvoir écouter tout à l'heure.
Techniquement, on part avec un petit carnet d'adresses, avec des rendez-vous, et puis on part aussi avec un petit enregistreur. Très mignon, avec des poils roux. Voilà, et c'est c'est la seule chose qu'on emmène, un casque, et voilà.
Ouais.
D'accord.
Ouais, on a notre petit zoom, on enregistre les gens avec, on a notre petite carte son, et voilà, on la vide au fur et à mesure, et puis après on la re-remplit, et puis après on fait les montages. Enfin voilà, c'est vraiment un travail de fourmi que je pense tu connais. Donc voilà, c'est vraiment du travail de fourmi, on écoute, on réécoute, voilà, c'est comme ça qu'on part.
Très bien. On va faire une petite pause musicale très rapide avant de continuer cet entretien et d'écouter donc cette première édition de Station Sérail, donc la spéciale Québriac pour le coup. On va écouter Indy Zara, Set Me Free.
Wow.
Please set me free. Let the love shine in me. I
Bien sur les ondes d'Univers 99.9. À l'instant, donc, c'était Indy Zara avec Set Me Free. Et l'on retrouve Elodie Quenouillère-Blair et Camille Lopez-Alvarez qui viennent nous présenter eh bien, le projet Station Serail qui vous mène dans différentes communes durant tout ce printemps pour aller recueillir, discuter, rencontrer les habitants des différentes communes que vous allez visiter. Et justement, est-ce que vous pourriez nous parler des lieux où vous allez vous rendre durant tout ce printemps, où vous êtes rendu aussi?
Alors là, cette semaine, donc, on est à Québriac. Donc on est à Québriac cette semaine. La semaine du 9 mai, on est à La Beaucène. La semaine du 31 mai au 2 juin, on sera à Saint-Léger-des-Prés. Ensuite, on joue à domicile, puisque la semaine du 20 juin, nous serons à Dingé. Et enfin, on termine au mois de juillet, donc la semaine du 4, 5, 6, à Meillac.
D'accord, très bien. L'idée, c'est d'aller où? Où est-ce que vous vous rendez? Dans quel lieu? À la rencontre de qui? Voilà.
Ben, souvent, en fait, on va chercher au niveau des associations, enfin du tissu associatif. Mmh. Donc là, par exemple, sur Québriac, il y a une association qui est le Cercle d'Illérance, pardon. Donc il y a un cercle de danse bretonne. Et donc là, on est allé interroger les gens là-bas. On a regardé aussi au niveau des associations des aînés, évidemment. Et puis aussi, on a cherché des adolescents donc auprès d'Anime6 qui voulaient bien, qui voulaient bien nous raconter aussi leur histoire avec Québriac. Mais bon, ça se fait aussi au hasard des rencontres. On a été dans les commerces, on a été au bar aussi.
À la crêperie.
À la crêperie. Au bar, on a rencontré Loulou à Québriac qui nous a dit « Bah, il y a Gérard qui vient prendre son petit rosé. » Donc on a rencontré Gérard. Et puis ainsi de suite. Et en fait, c'est assez beau aussi de se dire qu'on avance au hasard des rencontres. Et voilà, on se laisse aussi cette opportunité-là. On a des rendez-vous, mais on a aussi la possibilité de changer.
Ouais, on donne la place à ça, et c'est important aussi parce qu'il y a plusieurs rencontres qu'on a faites en fait de cette manière-là, c'est-à-dire en croisant quelqu'un dans la rue, en lui disant est-ce qu'on peut discuter, et puis en fait, ça se fait assez naturellement, et c'est ça aussi qui est sympa. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose de chouette d'avoir ces moments un peu.
Vous y allez avec une intention, c'est-à-dire quelque chose que vous, ou vous laissez vraiment porter par la rencontre. Est-ce qu'il y a des choses que vous cherchez à travers l'interaction avec les gens dans le sens dans la rencontre, est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels vous discutez qui vous intéressent aussi en tant qu'artiste?
Bah, on part déjà avec une liste de questions, mmh. et puis on les interroge vraiment sur... On fait vraiment au feeling aussi en fonction de la personne qu'on a en face de nous, de son aisance à parler, à se confier. Il y a des gens qui vont parler très très librement et donc c'est un peu... on essaie de réorienter les discussions, mais on laisse aussi les choses s'écrire comme ça. Et puis il y a des gens, à qui on va devoir aller poser plus de questions sur leurs souvenirs, sur le passé, sur... Peut-être le lien avec les générations futures, peut-être ce qui pourrait se passer actuellement dans les villages. Voilà, bon, on essaye de... Pour l'instant, on navigue un peu comme ça, un peu à l'écoute de ce qui se passe aussi.
Après, on a quand même toujours notre angle, notre prisme d'attaque, entre guillemets, notre angle, c'est vraiment le lien qu'entretiennent les gens avec leur territoire et de se dire, là où vous vivez, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça a représenté quand vous étiez enfant? Est-ce que ça s'est transformé? Ça, c'est vraiment notre lame de fond aussi qui amène quand même des discussions. Et du coup, à partir de cette lame de fond, les discussions sont différentes en fonction des gens parce que le territoire résonne de manière différente pour chacun, le passé résonne de manière différente pour chacun. Et c'est assez beau parce que souvent les gens disent « mais j'ai rien à raconter ». Et une heure plus tard, ils disent « ah bah ça fait du bien ». Et finalement, ils avaient plein de choses à raconter. Et nous, c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est la petite histoire, ce qu'on peut dire la petite histoire. Mais tout le monde a l'impression que son histoire, elle est moins bien que celle du voisin. Et en fin de compte, ce qui est beau, c'est aussi que justement, toutes les histoires sont singulières et que dans chaque vie vécue, dans chaque vie qui est en train de se vivre, il y a des toutes petites choses. Et c'est ça qui nous plaît aussi en tant qu'artiste et dans l'idée de la création de ce projet, c'est aussi de se dire « bah nous, c'est cette poésie-là, cette poésie du quotidien, cette poésie du réel, cette poésie presque du rien qui nous touche. » Et en fait, il y a plein de moments pareils où il y a des silences et les gens s'inquiètent de ça. Et en fait, c'est beau parce que c'est aussi ça qui résonne et c'est aussi ça qui donne du sens à ce qui a été dit juste avant ou ce qui va être dit juste après.
D'accord. Si les gens souhaitent vous rencontrer et venir vers vous.
Oui.
Alors on habite... Non, je plaisante. non, on donne pas le nom de la rue, ça suffit.
Alors, les gens peuvent nous contacter par mail, donc c'est stationserail.contact@gmail.com, ou sinon, ils peuvent aussi contacter les mairies. On ne va pas donner nos numéros ici, mais les gens peuvent contacter les mairies et puis on se met en lien.
C'est en partenariat aussi avec les communes, les mairies. Comment se passe aussi
En fait, c'est vrai que le projet s'est dessiné parce que donc on l'a écrit très rapidement au mois de novembre et puis on a envoyé nos projets aux mairies en disant bah en fait on a vraiment besoin aussi de partenaires dans les communes, donc les maires. Et il y a 5 maires qui ont répondu présent très très rapidement. Voilà, et donc c'est vraiment aussi nos copilotes, voilà.
Très bien. Cette semaine, me semble-t-il, donc on pourra écouter demain un épisode de Station Serail, et jeudi, il y aura une séance d'écoute, me semble-t-il.
Tout à fait.
Oui, on s'est dit que jeudi, on proposait une séance d'écoute collective au bar à Québriac, donc chez Loulou. Et voilà, on a envie de trinquer tous ensemble, d'écouter l'émission ensemble et voilà, d'avoir un petit moment convivial.
Ouais, de passer ce moment effectivement à écouter la radio ensemble, c'est quelque chose pour ma part que j'ai jamais eu l'occasion de faire, que je trouve vraiment, vraiment beau de se dire on va se retrouver ensemble à un bistrot et on va écouter une émission de radio ensemble en buvant un petit coup. Et bah ça, je peux vous dire que ça n'a pas de prix. Et que franchement, c'est chouette parce que les gens qui ont témoigné ou les autres aussi, enfin je veux dire, l'idée c'est voilà, qu'on se retrouve et qu'on vive cet instant ensemble.
Cet instant ensemble, très bien. Eh bien, on va écouter tout de suite ce premier épisode que vous avez enregistré à Québriac. Quelques mots, s'il y a à ajouter.
Oui, c'est vraiment la toute première, enfin le tout premier épisode et voilà, on cherche, on est des chercheuses, on n'est pas encore des trouveuses.
Ouais, merci à tous les gens là qui nous ont ouvert leurs portes et donné leur voix.
Très bien. Ouais. Merci beaucoup, Elodie Quenouillère-Blair et Camille Lopez-Alvarez, donc pour ce projet Station Serail que l'on va pouvoir suivre durant tout ce printemps sur les ondes d'Univers 99.9 et sur le site aussi, vous pourrez retrouver le www.radio-univers.com. Merci à vous.
Merci à toi, Mathieu.
Tout de suite, ce premier épisode de Station Serail. C'est parti.
Station Serail.
Station Serail interroge les liens que nous entretenons avec nos territoires. Commune de Québriac, épisode numéro 1, 25 avril 2023.
Expliquez comment ça se danse.
Bah, là c'est un petit peu, mais
c'est Amaya la socialiste.
Tu veux m'apprendre?
Ouais.
Me montrer comme ça comment on fait?
Alors il y a d'abord non comme ça. 1, 2, 3 je crois. Après normalement il y a soit comme ça ou soit comme ça, je sais plus. Comme ça je crois.
Moi je recule.
Oui.
Et tu peux après, apprendre ça, à danser comme ça.
Voilà, tous les deux. Voilà, on s'est mis,
On la connaît par cœur.
Ouais.
Okay.
J'ai l'impression que les adultes qui dansent sont des corrigans parce que ça m'a les yeux
et la tête,
et la tête et le cerveau.
Ouais.
J'ai honte dans la tête. j'ai failli m'endormir. Voilà, c'est à peu près ça. Moi, j'ai pas vraiment le.
Nous partons de ce principe que chaque lieu se charge et se transforme à la mesure de nos passages. Chaque corps se charge et se transforme à la mesure des paysages qu'il rencontre et des histoires qu'il y inscrit. Nous sommes liés de manière sensible et immatérielle aux espaces que nous occupons.
Écoutez bien, vieillards enfants et jeunes gens. Écoutez tous, écoutez bien, vieillards enfants et jeunes gens. L'histoire de ces pèlerins que les marins chantent souvent. Que les marins chantent souvent la nuit sous les étoiles. Ils n'étaient pas depuis 6 jours dessus la mer en leur parcours. Que les moreux les ont coursés, leur long bateau sur l'eau courait. Que les moreux les ont coursés plus vite qu'une étoile.
Etc, etc. C'est l'histoire de pèlerins qui s'en vont à Saint-Jacques-de-Compostelle et qui n'y arriveront jamais.
Et les adultes sont habillés de la même manière, sauf avec la catiole.
Oui, alors là.
Et un tablier, non?
Oui, alors donc c'est le là, c'est le costume de travail, on va dire. Donc, ça, c'était l'an dernier à Dol de Bretagne. Vous voyez, on a la catiole qui est beaucoup plus large que.
Oui.
Qui recouvre vraiment la tête.
Oui.
Que là, les enfants, c'est vraiment la toute petite. Et là, c'est une toute petite qui était venue. Vous voyez, le costume est identique.
Mmh.
Alors, il y avait certaines qui avaient le costume de ville avec le tablier du dimanche.
D'accord.
Et autrement, c'est le tablier. Et on a les manchettes qui sont assorties au tablier.
Et du coup, les gens s'habillaient comme ça ici, à Québriac,
oui.
Et dans le coin.
Dans la région. Oui.
D'accord. Et la coiffe a disparu.
La coiffe a disparu. À peu près au moment de la Deuxième Guerre mondiale, en fait.
D'accord.
Ouais.
Oui, tard.
Oui. Oui. Avant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y en a eu. Bon, il y avait encore des coins peut-être retirés où il y en avait encore un peu, mais en majorité, avant la Deuxième Guerre, il n'y en avait plus.
D'accord. Et elle danse avec quel genre de chaussures?
Alors, on a des bottines.
D'accord.
Mais on imagine que dans le temps, c'était des sabots, quoi.
Oui. Oui.
Mais on a toutes des bottines, donc parce que bon, c'est plus confortable quand même pour nous, donc on essaye, on a des bottines vraiment très très simples en fin de compte.
Mm-hmm.
On a essayé de trouver des bottines qui se rapprochaient le plus Donc voilà.
Et le costume des hommes, alors, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, le costume des hommes, c'est le costume là. C'est le costume du travail aussi. Une casquette. Donc, ils ont un pantalon en velours. Ils ont une chemise, alors qui est blanche, là, mais on va les faire teindre pour qu'elle soit un peu bi. Des bretelles, la ceinture de flanelle et la casquette.
D'accord.
Et ici, le chapeau, c'était plus. Moi, j'aime pas ce chapeau parce qu'il rappelle les chapeaux de la Gestapo.
Ah oui.
Donc, moi, j'aime pas trop, mais c'était le chapeau d'ici.
Okay.
Alors, si vous alliez sur la région, on va dire les villes, c'était un peu. Enfin, sur Rennes, par exemple, c'était le canotier.
Oui.
Parce que c'était déjà les. Ben, c'était la ville, quoi.
Oui.
Que chez nous, bon, ben, c'était. Ou la casquette, ou. Ou ce chapeau feutre, un peu, là. Mais. Donc voilà.
Ouais, c'est drôle.
Alors, c'est-à-dire que quand on a les cheveux, donc on se tire les cheveux en arrière. Ça, on l'emmène jusqu'au bout des cheveux, au maximum.
Oui.
Et quand il est bien tiré, on va rouler nos cheveux par-dessous. Et on va ramener ce filet, puisque c'est un filet, qu'on va venir nouer sur le dessus de la tête. Alors, en principe, sur le côté, puisqu'on a la coiffe à mettre dessus.
D'accord.
Non, j'ai peut-être pas assez tiré en fait. Je pense que j'aurais pu tirer encore davantage. C'est pas grave, on va grosso modo. Après, on met un filet pour maintenir toute la chevelure. Et après, on prend notre ruban. Qu'on va poser dessus. Oui, celui-là est trop court, bien sûr. J'avais fait ça pour une petite tête. Bon, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Alors, sur ce ruban, on va poser deux petites épingles qui vont nous permettre de prendre le ruban de velours, la résille. Et le ruban qui est dessous.
D'accord.
Donc, on va mettre deux de chaque côté.
Et ça, c'était la coiffure quotidienne ou c'était la coiffure de fête?
Je pense qu'elle ne mettait pas la coiffe tous les jours. Moi, je n'ai pas de certitude, mais je pense que, par exemple, pour le... Ou alors, elles avaient une coiffe toute simple pour le jour. Et le dimanche, elles avaient une coiffe. Parce que c'est pareil, chez mon mari, on a retrouvé... Chez les parents de mon mari, on a retrouvé des... Un jour, je rangeais. Je tombe sur une boîte en ferraille. Et puis, comme on était en train de ranger, donc j'ouvre et puis je regarde ce qu'il y avait dedans. Puis, un seul coup, je vois une boule. Comme des compresses. Et une, et deux, et trois, et quatre. Et sur le coup, j'ai pas du tout saisi ce que c'était. Et à un moment, j'ai vu un tout petit bout de fil qui sortait. Je dis, c'est pas vrai. J'ai trouvé 12 petites catioles.
Ah oui.
Alors, quand mon mari est arrivé, j'ai dit, tu vas jamais croire le trésor que je viens de trouver. Ben, il me dit, qu'est-ce que tu as trouvé comme des louis d'or? Il me dit. Je dis, oui, c'est ça, des louis d'or. Je dis, je viens de trouver 12 catioles. Il me dit, c'est pas vrai. Ben, j'ai dit, les voilà. Alors, bien sûr, toute sale, forcément, toute poussiéreuse. Mais sur les 12, il y en a certainement 4 qui sont en très bon état encore. Il y en a qui sont un peu abîmés, forcément, elles ont... Donc, on ne sait pas si c'est la grand-mère de mon mari ou l'arrière-grand-mère qui les faisait.
Oui, c'est dingue.
La dernière catiole. Donc, je pense que ça doit être plutôt sa grand-mère. La dernière catiole, donc, une fois retournée... Une fois... Elle est longue comme ça, quoi.
D'accord.
Donc, une fois qu'on a mis ça, on met cette fameuse petite catiole qu'on va fixer Donc les deux ailes, on va les fixer sur... voilà, c'est comme si je mettais ma catiole. Je vais les fixer de chaque côté. Les ailes, je vais les replier sur elles-mêmes et je vais les fixer au milieu.
La 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 Nous, nous vivons à Québriac depuis 15 ans, mais la crêperie, on vient de commencer notre 9e année. Depuis qu'on a ouvert la crêperie, on se rend compte que c'est quand même un sentiment partagé par un grand nombre de Québriacois. En tout cas, tous ceux avec qui j'échange, je parle de moi parce qu'Atman est en cuisine, mais vraiment, beaucoup de Québriacois ont conscience d'avoir beaucoup de chance de vivre dans un village comme Québriac. Alors ça tient à plein de choses, je ne sais pas vraiment à quoi, mais beaucoup à ses habitants, je pense, à un environnement sympa aussi, une proximité entre Rennes, Saint-Malo, le canal, une jolie campagne, voilà, et puis pas mal d'associations. Les gens aiment beaucoup leur village.
Les gens sont solidaires entre eux, ils s'aident et...
Oui.
On sent qu'il y a un bien-vivre en venant ici.
Et nous, on l'a ressenti quand on a ouvert. Voilà, on sentait que tout ce que les habitants de Québriac souhaitaient, c'était que ce commerce-là fonctionne, quoi. Donc, ils nous ont donné notre chance. Et puis, on a eu la chance que ça fonctionne et que ça se passe bien entre eux et nous. Et voilà, ça fait 9 ans que ça dure maintenant.
Oui, ça a été un coup de cœur tout de suite dès qu'on est arrivé à Québriac en voyant le clocher Thor.
Oui, on me rappelle très bien. On ne connaissait pas Québriac du tout. Et on venait pour visiter une maison. On est arrivé, je crois que c'était une journée d'avril. Les arbres étaient en fleurs et on a franchi la pancarte Québriac. On a vu le clocher Thor derrière. Alors, déjà, c'était un petit peu une vision idyllique. Et puis, on a flashé sur notre maison aussi. Et voilà.
Et une petite parenthèse, il y a un agent immobilier qui... et j'aime bien raconter cette histoire. Un agent immobilier qui... pour vendre du terrain ici, disait toujours aux acquéreurs, ici, vous savez que vous êtes sur le rocher monégasque de la Bretagne romantique. Tous les ans, il y a
le trail
du clocher Thor. Et les gens s'investissent énormément pour leur village. Et ça, c'est impressionnant. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Ou sinon, les clients, quand ils viennent à la crêperie aussi, il y en a qui apprécient beaucoup. C'est pas pour faire de la pub, mais... une fois, il y a une personne qui est venue et qui disait il faut prendre soin de cet arbre parce qu'il dégage des ondes vraiment positives et il faut penser à l'arroser et puis lui parler et tout. Donc, oui, ouais.
Qui a un arbre coupé, ouais. Hein, la plus dressée.
Il était où cet arbre?
Il était à Rennes. Il se trouvait au Novotel de Rennes où la sœur de Sophie travaille. Et puis, on cherchait un arbre. Et elle nous a demandé si on était intéressé, oui, parce qu'il devait l'abattre. Et puis, et donc, on a accepté, puis on l'a pris. Et ce qui est impressionnant aussi avec les clients qui viennent à la crêperie, tous les gens, il y en a beaucoup qui viennent et puis qui apportent des objets, des petits hiboux, ce que Sophie avait commencé à décorer avec des hiboux, des petits animaux, des choses comme ça, des arbres. Et puis, les gens, ils contribuent quand ils reviennent de... Quand ils sont là en vacances, il y en a qui ramènent des poivriers, des salières.
Les salières poivrières, elles sont toutes différentes. Et la grande majorité, ce sont des clients qui nous les ont apportées.
Qui ramènent des hiboux, qui nous ramènent de la vaisselle.
De vaisselle ici, donc c'est un peu la crêperie de tout le monde, quoi.
Pendant la période du Covid, ça, c'était impressionnant. Pendant la période du Covid, on ne savait plus quoi faire, si on devait ouvrir ou fermer, si on devait faire des... des plats emportés et tout, tout de suite les gens nous ont soutenus, ils sont venus prendre des plats emportés, ça nous a permis de tenir. La mairie nous a fait les menus et tout, tout le monde s'est senti impliqué pour la crêperie et ça c'est super touchant. Ouais.
Oui, on n'aurait jamais imaginé faire autant de plats emportés, ça a vraiment remplacé le travail qu'on fait ici au quotidien, pas d'un point de vue financier, mais en tout cas dans les heures de travail. On a retrouvé le contact avec les clients. Il y en avait qui venaient de loin, ouais. Les clients habitués qui venaient de loin quand même, oui, pour prendre des plats emportés de combo ou avec une régularité pendant tous ces longs mois qui était vraiment très très touchante.
Et c'était plus une relation client-restaurateur, c'était devenu une relation humaine. Les gens nous parlaient, nous demandaient comment ça allait, si on allait... Et puis il y a des liens qui se sont créés et tout. Les gens nous apportaient des chocolats, des choses. Et ça, c'était bluffant. Hein.
Ouais.
Ça, c'était super bluffant et touchant. Donc, il y a une sacrée pression quand même à être ici et puis à essayer de ne pas décevoir les gens.
Donc je ne sais pas, ça doit exister bien sûr ailleurs, hein, forcément. Mais nous, on a eu la chance que la magie opère.
Ouais, et on ne s'explique pas parce que la première affaire qu'on avait ouverte, et c'était en pleine saison, donc on ne voyait pas nos enfants parce qu'ils étaient...
C'était tout petit.
Ils étaient tout petits, donc ils allaient au centre aéré. Et puis le reste du temps, ils étaient à l'école, donc quand ils étaient en vacances, et ben, nous, on ne les voyait pas parce qu'on travaillait. Mais il n'y avait pas eu cette magie-là. Et donc là, en deuxième expérience, voilà, on est vraiment content de qu'il y ait cette magie-là, parce que on peut ouvrir un restaurant, faire du chiffre, et puis gagner sa vie, et puis c'est tout. Donc aujourd'hui, c'est notre petit grand garçon.
Bonjour.
On devait ressentir quelque chose, moi c'est un peu ce que je ressentirais. Depuis mon village où je suis née, c'est la seule fois où ça s'est produit. Ouais. Le sentiment d'être à sa place.
Ouais. Vous êtes heureux? Finalement, vous êtes
oui.
Heureux?
Ben oui. Ouais, je pense qu'on peut le dire. C'est pas drôle tous les jours, forcément, comme ouais. Dans tous les travails, mais le contentement, malgré tout, est là. De voir que les clients sont contents...
Oui, parce que les fois où c'est difficile et que, qu'on a un petit peu, qu'on a un petit peu le moral sapé, quand on entend des encouragements, des choses comme ça, ça nous permet de tenir et puis de nous dire... Déjà pour toutes ces belles personnes, on va continuer, on va pas lâcher. Mais c'est sûr qu'il y a eu des fois où on se disait, les premières années déjà, toi t'étais tombé, t'avais eu des soucis, et puis il fallait 3 ans pour pouvoir être sûr que l'affaire marche, puisqu'ils expliquent pendant 3 ans, on n'est jamais sûr si ça fonctionne ou pas. Et puis après, là, ça s'est fait.
Vous avez fait un beau...
Ça a été tous ensemble, parce que même nous, si on avait voulu créer une ambiance comme ça, on n'aurait pas pu, parce qu'il n'y a pas de...
Il n'y a pas de recette.
Il n'y a pas de recette. Et puis, c'est de l'alchimie, là.
On se le dit pas tous les jours, hein. Ouais. C'est juste en parlant avec vous qu'on se dit finalement, oui, on est quand même.
Quand on se pose et qu'on prend du recul. Il faut pas de blanc dans.
Si, c'est joli. C'est joli aussi le silence. Ça raconte. Ils n'étaient pas depuis 6 jours dessus la mer en leur parcours. Que les moreux les ont coursés, leur long bateau sur l'eau courait. Que les moreux les ont coursés plus vite qu'une.
Tu vois, mon père, il a fait la guerre de 39 aussi, hein. Et j'étais pas née quand il est parti à la guerre. Mais quand il est revenu, j'avais 5 ans, j'allais à l'école. Ah, ça c'est pas drôle. Hein. J'ai connu mon papa, j'avais 5 ans, j'allais à l'école. Je le vois encore arriver. Il est arrivé à la brosse par la locomotive, là. Hein. J'avais un frère, déjà, on était 2. Quand on vous dit, c'est ton papa, tu te demandes si... d'où tu arrives, hein. Comment que ça se fait? Moi, j'avais pas de papa. On m'en parlait pas. Je vivais dans une ferme parmi des ouvriers. Mes parents avaient... Ma maman avait quelqu'un pour faire la terre, pour emmener, pour mener les chevaux, tout ça. Pour faire la terre, hein. Mais je vivais dans une famille. Je me rendais pas compte que j'avais pas de papa. Mais quand même, quand ça vous arrive... Je me rappelle de mon baptême. Ah, ça va, on est allé à pied, ça c'est sûr. Je me rappelle que j'avais une robe rose. Et que j'avais des petits souliers qui me faisaient mal aux pieds. Et on n'avait pas de souliers à toutes les pointures. Hein. Non. Enfin, on a grandi. Puis après, à l'école, comme tout le monde, on a tout certificat d'études. Puis on a fait notre vie à la ferme. Enfin, c'était parmi les vaches et les cochons, hein, ça n'y a pas de doute. Hein, et les travaux des champs. Et c'est le calme plat, là. Hein. Pendant la pandémie, le facteur, il venait même pas. Il laissait le courrier chez mon gars. Puis j'apportais le courrier quand j'allais. Mais c'est vrai qu'on voyait pas beaucoup de monde.
Vous avez
ça a été un moment quand même triste. S'il y avait quelques gens qui passaient là, c'est des gens qui voulaient marcher, je pense. Ils s'arrêtaient pas. Parce que normalement, ils n'avaient pas à venir jusque-là, hein, puisque les gens n'avaient même pas le droit d'emprunter les chemins. Fallait pas... Les gens qui voulaient marcher. Il y a des gens qui ne pouvaient pas s'en passer hein, pendant la pandémie.
Et la pandémie, ça a vraiment été quelque chose qui a changé la vie,
oui,
vous sentez.
Ah oui, ah oui, ah oui. Les gens, on avait l'impression qu'ils se sauvaient des uns des autres, quoi, qu'ils avaient peur de parler, qu'ils avaient peur de... Les gens s'entraident. Quand il y a besoin, c'est sûr. Mais les gens sont restés un peu plus seuls, quoi. À part ça, quand il y a, c'est sûr, un coup dur, les gens sont là, prêts à se rendre service. Mais le fait des tracteurs, des outils, ça a beaucoup changé la vie, quoi. Beaucoup. La vie a quand même beaucoup changé. Depuis que j'étais jeune fille. Hein. Bon, quand j'étais jeune fille, j'ai vu mon frère partir en Algérie. Quoi. C'était autre chose. À toute époque, il y a eu des problèmes. Hein. Moi, ici, je ne les ai pas connus, finalement. Puisque moi, j'avais 25 ans, donc les gens de mon âge, ben, ils étaient tous revenus. Ici, ben, ça n'existait plus, finalement, en Algérie, quand je suis venue ici. Parce que je me rappelle du punch d'Alger, c'était le jour de mes 18 ans. Bon, ben, c'était encore une journée marquée à l'encre rouge. Les moments festifs, ça arrive. Mais bon, nous, on n'a jamais été tellement de faire partie de gens qui se... Bon, il y avait bien des fêtes, bien sûr, mais bon, tant que les enfants, les jeunes ont été à l'école, bon, on avait connu les fêtes des écoles, déjà. Mais... Après, quand tout le monde a grandi, chacun perd ses ailes, là, chacun s'en va de son côté. Hein. Maintenant... La vie est quand même très différente. Hein. Dans les villages, ben, on se connaît pas beaucoup. Finalement. Enfin, nous, on se connaît dans tout le village là quand même, mais on n'a pas des rapports comme d'autres fois nos parents. Parce que nos parents, quand ils travaillaient dans une ferme, ils avaient le village qui venait aider. C'était... Tandis que maintenant, chacun prend son entreprise et puis fait faire son travail. Hein. C'est plus la même ambiance. Et puis, ce qui compte, c'est de vivre pour elle. C'est de profiter de la vie. Alors que nous, ben, on n'a pas connu. Puisqu'on a eu une vie de travail. Hein. Et puis, quand on est arrivé à l'âge de la retraite, moi, j'avais 62 ans. Mon mari était déjà décédé. Donc, j'étais pas en retraite quand il est décédé. Alors... Je suis venue près de ma fille. Et puis j'aide les deux, j'ai aidé les petits-enfants, je les ai emmenés à l'école, je les ai emmenés faire le judo, enfin, le catéchisme à l'occasion. Hein. Et puis maintenant, je m'arrête, quoi. Je vais avoir 83 ans. Bon. Alors il est temps de dire, faut se calmer. Moi, je dis que je me calme, parce qu'il faut, quoi. Mais un temps, non, je ne m'arrêtais pas, je ne savais pas. Tant qu'il y avait du travail à faire, il fallait arrêter, fallait marcher, quoi. Mais maintenant, bon. Ben oui, la sagesse arrive. C'est un peu comme la petite dame, là, qui est... Chacun son truc, hein. Lire le journal, la télé, très peu, parce que de toute façon, elle n'est pas intéressante. Alors... De toute façon, la télé, vous ne pouvez pas, moi, à l'heure où ils sont en train de me préparer quelque chose, moi, je vais dormir. Alors... C'est complètement idiot. Mais non, ils font les gens traîner trop tard. Et les gens ne savent plus se coucher. Et le matin, ils ne savent pas se lever. J'allais dire, j'en refais la leçon. Mon travail, c'était le travail. Mmh. À part ça, si j'aurais pu être fleuriste aussi. Mmh. J'aurais aimé les fleurs. J'aurais aimé les fleurs. Mais à part ça, c'est pas ce que j'aurais fait. Me promener, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vais en vacances avec mes petits-enfants, quoi. Mes enfants, quand même. Tous les ans, depuis près de 20 ans. Hein. Bon. Puis, ouais, j'étais en Espagne plusieurs fois. Plusieurs fois, je suis rentré en Allemagne, quand même. J'ai fait l'Alsace. Et la Bretagne. Et la Vendée. Ouais. Le Roussillon. Bon, je ne sais pas cette année, je ne sais pas si j'irai. On verra ça d'ici le moment. Si ça va mieux, là. Il faut déjà y mettre de la bonne humeur, après ça va mieux.
Ouais.
Des blagues, quoi. Ben, ça fait oublier.
C'est vrai.
Oui. Puis on se dit, ça ira mieux demain. Il faut se le dire dans la vie, hein, parce que sinon, on aurait des moments tristes. Hein.
Ain't got no home, ain't got no shoes. Ain't got no money, ain't got no class. Ain't got no skirts, ain't got no sweaters. Ain't got no perfume, ain't got no love. Ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother. Ain't got no father, ain't got no brother. Ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends.
Ain't got no wine, ain't got no money, ain't got. hard life. I got my freedom.
Merci pour vos voix et vos confidences. Catherine, Agnès, les petits Korrigans du Fesnoz, Germaine, Sophie et Atman, et tous ces leux qui nous ont permis.
Voilà, c'était le premier épisode de Station Sérail sur les ondes d'univers 99.9 avec Élodie et Camille. Merci à vous.
Merci.
Merci Mathieu.
Donc pour ce premier épisode, à retrouver demain, même heure, 19h et jeudi à 19h aussi sur les ondes d'univers. Salut.
Salut.
Salut.